Abordons maintenant notre première religion, le judaïsme. Il n'y a dans le monde qu'une seule religion, autre religion, dont le christianisme reconnaît l'origine divine. C'est le judaïsme. La longue histoire d'antisémitisme dans le monde chrétien est sans doute un des scandales les plus honteux de l'histoire de l'Église. Le christianisme et le judaïsme appartiennent tous deux au même arbre spirituel, pour reprendre une image de l'apôtre Paul. Nous sommes portés par la même racine. Le christianisme accomplit le judaïsme, dans un sens qu'on ne pourrait pas appliquer à d'autres religions. Quand un hindou, ou un païen, ou un athée se fait baptiser, il s'agit d'une conversion. Quand un juif se fait baptiser, il s'agit d'une conversion aussi. Mais il s'agit également d'un aboutissement. J'ai un ami en Marseille, c'est une dame âgée, elle a deux frères qui sont rabbins. Elle s'est convertie au christianisme. Elle a dit, pour moi, c'était l'aboutissement de ma foi juive. Et là, on rejoint la pensée de Jésus lui-même. Pour Jésus, tout vrai juif viendra au Messie. Et le chemin qui l'amènera au seuil de la foi en Jésus, c'est une pratique authentique de la loi de Moïse. C'est pour ça que Dieu a donné la loi de Moïse. C'est pour amener le peuple d'Israël au Messie. Jésus a exprimé ce point de vue souvent dans les évangiles. On va citer simplement deux textes. Le premier, c'est en Matthieu 5, verset 17. « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi. » Ah, attention. Jésus est venu abroger la loi. Paul dit que Jésus a cloué la loi sur la croix. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit dans son enseignement, dans son ministère public, il n'est pas venu abroger la loi. En fait, il dit aux Juifs qu'ils doivent pratiquer la loi afin de se préparer à entrer dans le royaume. C'est ça que Jésus veut dire ici, en Matthieu 5. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Un verset, à mon avis, beaucoup plus important, c'est en Jean chapitre 3, verset 21, que je vais traduire rapidement. Mais celui qui fait la vérité, ça c'est le vrai juif. Ça c'est le juif qui pratique sa religion d'une façon authentique, d'une façon qui plaise à Dieu. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. La lumière, c'est le Messie. Je suis la lumière du monde. Jésus est en train de dire, tout vrai juif viendra au Messie. Et il sera amené par la loi elle-même, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres, les œuvres du vrai juif, sont faites en Dieu. Dans ce sens, le judaïsme est plus juif que le judaïsme moderniste. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à parler avec vos amis juifs. Ils ne sont pas pratiquants. Le judaïsme biblique, c'est-à-dire pré-chrétien, est comme une vierge. Le judaïsme post-chrétien est comme une vieille fille. Le judaïsme dans le Christ Dieu consomme son mariage avec le peuple élu par le Christ et en passant par le peuple juif avec l'humanité tout entière. Alors, qu'est-ce que nous avons hérité des Juifs, nous autres chrétiens? Qu'est-ce que nous avons hérité? Eh bien, tout ce qui est dans l'Ancien Testament. La connaissance du vrai Dieu. Comparer cette connaissance avec tout ce que peuvent nous apporter les autres religions, c'est comparer le soleil à un brouillard. Six notions fondamentales distinctives ressortent du judaïsme biblique. On va le regarder. Le monothéisme, la création, la loi, la rédemption, le péché et la foi. Voilà ce que nous avons reçu du judaïsme. Premièrement, le monothéisme. Seuls quelques rares païens, par exemple Socrate, qui croyait en un Dieu suprême mais qui savait presque rien de lui, et Akhenaton, c'est le pharaon qui a décrété qu'il y a un seul Dieu, le Dieu soleil. Mais ils sont rares, les païens, à être arrivés à cette prise de position simple et élevée du monothéisme. Pour la plupart des païens, les nombreuses forces différentes de la nature impliquent l'existence de nombreux dieux ou de déesses. Le fait qu'il existe du bien et du mal dans le monde implique l'existence de dieux bons et de dieux mauvais, de dieux méchants. Le polythéisme, à première vue, n'est pas si bête que cela. Mais il n'y a que deux explications possibles pour rendre compte de l'idée tout à fait révolutionnaire, tout à fait originale, d'un Dieu unique chez les Juifs. Un Dieu qui est unique, qui est bon et qui est tout-puissant. Il n'y a que deux explications possibles. Ou bien les Juifs sont les philosophes les plus extraordinaires et les plus brillants de l'histoire, ou bien, ils sont le peuple élu, c'est-à-dire Dieu a daigné se faire connaître à eux. Et traditionnellement, c'est la deuxième explication à laquelle croient les Juifs. En fait, c'est l'interprétation la plus humble des faits. Deuxième grande vérité. Cette idée originale, des peuples de l'Antiquité, il n'y a que les Juifs qui croyaient à un Dieu unique. Cette idée originale était accompagnée d'une idée peut-être encore plus révolutionnaire, plus lourde de sens. C'est l'idée de la création par Dieu de l'univers à partir de rien. Les soi-disant mythes de la création dans les religions païennes ne sont pas des récits de création. C'est les récits de la formation du monde. Parce que les dieux, ils prenaient la matière qui leur restait sous les bras. Dans un des mythes, il y a un grand conflit, il y a une grande guerre entre les dieux. Et les dieux vainqueurs prennent les corps, les cadavres des dieux vaincus pour faire la terre. C'est pas une création, cela. C'est une formation. Un juif, et ces païens, ces mythes païens, on peut toujours rejeter la faute du mal sur la matière. D'accord? C'est impossible pour un juif. Parce que pour un juif, Dieu a créé, c'est Dieu qui a créé la matière. C'est lui. Et on peut pas non plus, si on est juif, rejeter la faute du mal sur Dieu lui-même. Parce que Dieu est bon. L'idée que la seule source possible du mal, c'est le libre arbitre des âmes, est une conséquence qui découle directement de la doctrine de la création. Moi, je crois qu'on a besoin, c'est un besoin énorme que nous avons aujourd'hui dans l'Église, une doctrine solide de la création. 90%. Et je n'exagère pas. De nos problèmes seront résolus par Genèse 1:1. La toute première chose que Dieu dit dans son livre aux hommes, la chose la plus importante, vous faites partie d'un univers que j'ai créé. Moi, je suis le créateur, vous faites partie de la création. Quand on n'est pas d'accord avec le monde sur ce par le mariage des homosexuels et autres, la vraie raison, c'est Genèse 1:1. Si on creuse assez profondément, si on suit la logique, les gens qui disent ça le disent parce que ce sont des athées. Ils suivent logiquement la conclusion de leur athéisme. Et présenter des arguments qui ne creusent pas jusque-là, à mon avis, c'est inutile. Alors, le verbe hébreu qui veut dire créer, c'est le verbe bara, n'apparaît que 3 fois dans le récit de la Genèse. Au moment de la création de l'univers, verset 1, au moment de la création de la vie animée, c'est le verset 21, et puis la création de l'homme, verset 27. Tout le reste a été non pas créé à partir de rien, mais formé à partir de ce que Dieu a créé. Les conséquences qui découlent de ce principe de la création sont révolutionnaires. On ne peut pas les exagérer. On ne peut pas accorder trop d'importance à cette idée. Un monde créé par Dieu est un monde réel. Ce n'est pas simplement un rêve, ni un rêve de Dieu, ni un rêve de l'homme. Ce monde est rationnel. Un cosmos ordonné et non pas un chaos désordonné, imprévisible. C'est un monde qui est bon. Le christianisme est une religion réaliste, une religion rationnelle et une religion qui affirme la valeur et la bonté du monde matériel plutôt qu'une religion mystique mythique et qui nie la réalité du monde matériel, justement parce que ses racines se trouvent dans l'Ancien Testament. Ses racines se trouvent dans le judaïsme. Ce n'est pas un hasard qu'un nombre disproportionné de grands scientifiques dans le monde sont d'origine juive. Alors, troisième, parce qu'il faut continuer, on pourrait passer longtemps sur ce point, la création. Troisième grande vérité que nous avons héritée du judaïsme, c'est l'idée de la loi. C'est l'essence du judaïsme. Le judaïsme est avant tout une religion pratique. La Torah, la loi divine. Cette loi relie deux volontés. La volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Le Dieu des Juifs n'est pas une force impersonnelle. Le Dieu des Juifs n'est pas une abstraction. Ce Dieu est une personne. Non pas une personne humaine, évidemment. Mais c'est une personne. Et en tant que personne, il a une volonté et une intelligence. Quelle est la volonté de ce Dieu? Sa volonté, c'est que notre volonté, la volonté des êtres humains, soit conforme à sa volonté. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait ça? Parce que c'est un mégalo? C'est un tyran? Non. Parce que sa volonté, c'est le bien. C'est la vérité. C'est la beauté. Le Lévitique, presque le cœur de la religion juive qui est reprise, ce verset est repris par l'apôtre Pierre, « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. » La loi de Moïse comporte 4 niveaux de profondeur différents. On commence par le code civil. La loi de Moïse était le code Napoléon, le code civil du peuple d'Israël, des lois qui réglaient la vie sociale. Deuxième niveau, bon, c'est plus élevé, plus profond, comme vous voulez. Deuxième niveau de profondeur, c'est les règles rituelles. Comment les prêtres doivent s'habiller, ce qu'ils doivent faire dans le temple, etc. Toutes les lois religieuses. Troisième niveau de profondeur, la loi morale. Résumé, par les 10 commandements. Et puis le cœur, le noyau de la loi de Moïse, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. Écoute Israël, hein, c'est le schéma, c'est la prière quotidienne des Juifs. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. L'essence de la religion chrétienne est donc la même que l'essence de la religion juive. C'est l'amour de Dieu. Mais il y a une différence. C'est que dans le judaïsme, cet amour est réalisé par l'obéissance à la loi de Moïse. Dans le christianisme, cet amour est réalisé par la foi dans l'œuvre rédemptrice du Christ. Quatrième grande idée, c'est l'idée de la rédemption. L'œuvre rédemptrice du Christ est, bien sûr, vous savez ça, est préfigurée dans le judaïsme. L'acte que le culte mosaïque mettait devant les yeux des Juifs dans le temple, c'était le sacrifice. Le sang des boucs et des taureaux préfigurait, annonçait le sang du Messie, le pardon acquis par sa mort sur la croix. Le chrétien peut discerner dans chaque détail, c'est comme ça que les apôtres et Jésus lui-même lisaient l'Ancien Testament, faisaient une relecture chrétienne. Ils regardaient les rites et les institutions d'Israël et ils y trouvaient des préfigurations, des indices de l'œuvre du Christ. Voilà pourquoi il est si triste, si tragique de lire dans l'évangile de Jean, il est venu dans son propre bien. Jésus est venu chez les Juifs. Il est venu en Israël et les siens ne l'ont pas accueilli. L'Ancien Testament dessine un portrait, c'est vrai, pas très clair du tout, mystérieux, du Christ. Malheureusement, la plupart des Juifs ont préféré le portrait au Christ lui-même, en chair et en os. Jésus dit à ses adversaires juifs, « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » Préférez les Écritures, la parole écrite à la parole vivante. Alors, on va regarder 5 et 6 ensemble. Le péché et la foi. À part le judaïsme et le christianisme, aucune religion ne pose en principe que la foi, essentiellement, est une relation d'amour avec un Dieu personnel. La foi, c'est pas simplement la croyance. Et le péché, ce n'est pas simplement le vice, hein, une transgression. La transgression d'un article de code. La foi dans la Bible comporte aussi, bon, il y a l'idée de croyance, d'adhésion intellectuelle, mais aussi l'idée de fidélité. On est fidèle à Dieu dans une alliance. C'est comme dans un mariage. Je dis souvent que l'évangile est une proposition de mariage que Dieu nous adresse. Le péché, c'est le contraire de la foi. Vous savez ça? Dans l'évangile de Jean et dans ses épîtres, le péché, le, L-E, P majuscule, c'est l'incrédulité. C'est le non essentiel qu'on oppose à Dieu plutôt que le oui. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est ce péché, c'est le péché de l'incrédulité. C'est le péché de la séparation avec Dieu, du rejet de Dieu par l'humanité. Le péché signifie le divorce, la rupture de ce lien d'amour avec Dieu. Dans le judaïsme, comme dans le christianisme, donc le péché n'est pas simplement une affaire morale. Et la foi n'est pas simplement une affaire intellectuel. Les deux relèvent du domaine spirituel. Les deux relèvent de ce que la Bible appelle le cœur. Attention, c'est pas le sens français, moderne. Le cœur, c'est pas le siège des sentiments dans la Bible. C'est beaucoup plus profond que cela. Le cœur, c'est le moi profond. C'est la source de mes pensées. C'est la source de mes désirs et de mes sentiments. C'est pas les sentiments superficiels. Quand j'étais à la fac, au Moyen-Âge, il y avait un livre écrit par un rabbin philosophe qui s'appelle Martin Buber. C'est un petit livre. Il est aussi disponible aujourd'hui. Il s'appelle Le Je et le Tu. C'est très à la mode. Tous les étudiants en théologie lisaient ça. Même si c'était pas exigé par les profs. Et dans ce livre, Buber montre que l'essence du judaïsme et l'essence du christianisme sont d'accord sur ce point. Il arrive souvent que les juifs demande aux chrétiens de ne pas chercher à les évangéliser. Évidemment, nous ne pouvons pas accéder à cette demande. Pourquoi? Parce que notre maître, notre Seigneur, nous a ordonné de faire le contraire. En même temps, la requête des juifs est compréhensible. Vous savez, les juifs ne font aucun effort particulier pour gagner les convertis au judaïsme. Le judaïsme est avant tout est essentiellement une religion ethnique. C'est-à-dire, on est né juif. Et même pour les prosélytes, c'est pas un processus facile ou rapide pour s'intégrer dans le judaïsme. À l'origine, les juifs croyaient qu'il fallait attendre la venue du Messie pour que la loi juive, la religion juive, s'étende jusqu'aux non-juifs, jusqu'aux nations païennes. Et c'est ce que croient aujourd'hui les juifs orthodoxes. Si les juifs progressistes ne cherchent pas à faire des adeptes au judaïsme, c'est pour d'autres raisons. Pas parce qu'ils croient au Messie à venir, c'est que ce sont des relativistes. Le christianisme et le judaïsme sont à la fois plus proches et plus éloignés que n'importe quel autre père de religion du monde. D'une part, nous les chrétiens, nous sommes héritiers de toutes les richesses spirituelles de l'Ancien Testament. D'autre part, les religions qui n'ont pas de frontières communes et qui n'en désirent pas une, ces religions peuvent continuer leur petit bonhomme de chemin séparément, en parallèle, sans jamais se rencontrer. C'est pas possible pour les juifs et les chrétiens. Vous savez pourquoi? Nous avons quelque chose en commun. Jésus de Nazareth. Seulement, nous ne sommes pas du tout d'accord sur qui il est. Jésus est la pierre d'achoppement, le rocher qui fait tomber, le scandalon en grec, le scandale. Et nous n'osons pas réduire Jésus à un caillou inoffensif. Ou bien le Messie est venu, ou bien il n'est pas venu. Ou bien Dieu a adressé sa dernière révélation aux hommes, ou bien il n'a pas encore adressé sa dernière révélation aux hommes. Si nous, juifs et chrétiens, si nous refusons de regarder en face ces différences, nous ne nous aidons pas, nous ne nous rendons pas service les uns aux autres. À l'époque de Jésus, les juifs en général ne voulaient pas du genre de Messie que Jésus était. Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Vous souvenez cette parabole? C'est pourquoi ils l'ont rejeté. Jésus n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Est-ce qu'il est injuste de dire qu'aujourd'hui, les Juifs rejettent Jésus pour la même raison? Il n'est pas le genre de Messie qu'ils attendent. Jésus le Messie est encore pour eux un scandale et une offense. Au risque d'injecter un peu de théologie dans un cours d'apologétique, il faut creuser, il faut explorer un peu plus les raisons pour lesquelles les Juifs rejettent la messianité de Jésus et les raisons pour lesquelles les chrétiens acceptent la messianité de Jésus. car nos différences sur cette question font ressortir un aspect que je juge fondamental de la foi chrétienne. Un aspect qui est souvent méconnu ou ignoré par les chrétiens eux-mêmes. Le judaïsme de l'Antiquité, comme le judaïsme actuel, rejette la messianité de Jésus essentiellement pour deux raisons. Premièrement, quelle qu'ait été l'évolution de la conscience juive depuis les origines jusqu'à nos jours, il y a un point rigoureusement fixe, un point qui ne change pas. La Torah, la loi, la doctrine, parce que le mot Torah veut dire doctrine, donnée par Dieu à Israël par l'intermédiaire de Moïse, est la révélation définitive et suprême de Dieu aux hommes. Or, l'accusation la plus souvent formulée contre Jésus dans les évangiles, c'est qu'il s'élevait contre la loi. C'est-à-dire, son enseignement contredisait ce que disait la loi, que Jésus encourageait la violation des commandements. Notamment, par exemple, les lois sur le sabbat. Par exemple, Jean 9, verset 17 à verset 16. Parmi les pharisiens, les uns disaient, cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu, il ne peut pas être un prophète. Parce qu'il va à l'encontre des règles sur le sabbat. Actes chapitre 6, c'est pas Jésus ici, c'est Étienne. Et ce que dit Étienne, à mon avis, est très révélateur. Là, ils produisirent de faux témoins. L'homme que voici, c'est Étienne, disait-il, tient sans arrêt des propos hostiles au lieu saint, ça c'est le temple, et à la loi. De fait, nous lui avons entendu dire que ce Jésus le Nazaréen détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Jésus est vu comme un renégat, comme un faux enseignement, un enseignant, un faux prophète. Il n'est pas reconnu par les autorités juives de son temps comme un porte-parole de Dieu. Encore moins comme un candidat légitime à la royauté messianique, à la messianité. Car le Messie devait mener le peuple juif à la pleine et entière observance de la loi de Moïse. Et aussi, il devait imposer la pratique de la religion juive aux nations païennes. Donc, Jésus semble contredire la loi. Deuxième raison, c'est la plus costaude. Jésus n'a pas accompli les prophéties de l'Ancien Testament au sujet du Messie, les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Les idées que les Juifs se faisaient du Messie au premier siècle, en fait, étaient très diverses et parfois contradictoires. Mais tout le monde, ou presque, était d'accord sur un point. C'est ce qui unissait le peuple juif. Le Messie doit restaurer la nation d'Israël, lui assurer non seulement son indépendance, mais aussi sa domination du monde païen, qui sera obligé de reconnaître le Dieu d'Israël et obligé de pratiquer la religion juive, la loi de Moïse. Le règne du Messie pour les Juifs serait donc une utopie théocratique, fondée sur la loi de Moïse, centrée sur le temple, centrée sur Jérusalem. Ça, c'est leur idéal. Bon, il est évident, historiquement parlant, que Jésus de Nazareth n'a pas accompli cette attente, n'a pas réalisé cette attente des Juifs qui se basait en fait sur une lecture littéraliste de l'Ancien Testament. Dans son dialogue avec Tryphon, écrit vers 160, Justin Martyr, Tryphon, c'était un érudit juif. Justin Martyr, c'était un païen qui s'est converti, un alexandrin qui s'est converti à la foi chrétienne. Mais Justin reçoit cette exhortation de la part de son interlocuteur juif, qu'on va lire. Mais quand vous vous abandonnez Dieu pour croire à la parole d'un homme, l'homme c'est Jésus, quel espoir de salut peut vous rester? Si vous voulez m'en croire, car je vous regarde déjà comme un ami, faites-vous d'abord circoncire, puis observez le sabbat, les fêtes, les nouvelles lunes, comme la loi le prescrit. En un mot, faites tout ce qu'elle commande, peut-être alors trouverez-vous grâce devant le Seigneur. Sur de vains bruits, on parle de Jésus ici, sur de vains bruits, vous avez revêt un Christ qui n'est que dans votre imagination. Et dupe de vous-même, vous courez aveuglément à votre perte. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Justin? Ben, Justin, il faut que tu te convertisses au judaïsme. Il faut revenir à la vraie révélation de Dieu, la loi de Moïse, et il faut se remettre à attendre le vrai Messie. Voilà. Quelle réponse, entre guillemets, apologétique, Jésus et les apôtres et les rédacteurs du Nouveau Testament opposent-ils à ces objections du judaïsme incrédule? Pour comprendre la réponse du Nouveau Testament, il faut passer par une révolution copernicienne dans notre façon de lire l'Ancien Testament, de notre façon de voir les rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous savez qui est Nicolas Copernic, ancien astronome polonais, qui a attaqué l'orthodoxie scientifique de son époque, 16e siècle, parce que tout le monde croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est une vision géocentrique. Alors Copernic a démontré, dans un livre publié après sa mort, que c'est pas, malgré les apparences, c'est pas ça. C'est que la Terre tourne autour du Soleil, c'est-à-dire une vision héliocentrique. Et c'est une véritable révolution dans notre façon d'envisager le monde physique. Vraiment une révolution. Une révolution copernicienne. Eh bien, nous aussi, nous avons besoin de passer par une révolution copernicienne dans notre perspective. La plupart des chrétiens, surtout de notre époque moderne, suppose que le Nouveau Testament dépend de l'Ancien Testament. Dans ce sens, que le Nouveau Testament montre comment Jésus a suivi et accompli un programme messianique clairement défini dans l'Ancien Testament. J'ai fait un petit sondage sur le net et dans mes livres. On prétend que l'Ancien Testament renferme, et vraiment il y a une variation énorme, entre 40 et 400 prophéties messianiques. Alors quand même, c'est une différence énorme. Les chrétiens ne peuvent même pas se mettre d'accord sur le même, dans la même fourche de prophéties, combien il y a dans l'Ancien Testament. En fait, les chiffres exacts, c'est 38 et 388, et il y a tous les chiffres possibles entre les deux. Et puis, bon, que Jésus, dans l'Évangile, il a comme une liste de contrôles et il se met à accomplir les unes après les autres toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il arrive à la fin, bingo, je suis le Messie parce que j'ai accompli toutes les prophéties. Le schéma essentiel, c'est donc prédiction messianique, accomplissement par Jésus. Dans ce sens, en quelque sorte, c'est vrai. Tout comme, en quelque sorte, nous voyons le soleil tourner autour de la terre. En fait, ce n'est pas ça qui se passe dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Le dessein de Dieu en Jésus, tel qu'il est raconté dans le Nouveau Testament, ne dérive pas de l'Ancien Testament. Il est discerné dans l'Ancien Testament rétroactivement, c'est-à-dire après coup. L'Ancien Testament relu chrétiennement, entre guillemets, à la lumière des événements de la vie de Jésus, sa naissance, son ministère public, surtout sa mort, sa résurrection, son ascension. On relit l'Ancien Testament à la lumière des évangiles, c'est pas le contraire. Le sens de l'Ancien Testament est déterminé par Jésus et non pas Jésus par l'Ancien Testament. Et aussi à la lumière des enseignements que Jésus donne à ses apôtres après sa résurrection. On sous-estime, à mon avis, grandement l'importance des apparitions de Jésus après sa résurrection. C'est là que les apôtres arrivent finalement à la vraie foi. Voici ce qu'on dit dans l'évangile de Luc. Puis Jésus leur dit à ses apôtres, après sa résurrection, c'est le soir de sa résurrection. Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous, mais que vous n'avez pas comprises, ni crues. Lent à comprendre, lent à croire. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Jésus leur montrait des préfigurations, des prophéties messianiques là où ils n'en avaient jamais vu. Et il leur dit, c'est comme il a été écrit, le Christ souffrira, ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. L'histoire de Jésus est toujours présentée dans le Nouveau Testament comme se réalisant selon les Écritures. Hein, c'est une formule consacrée. Hein, cela s'est passé selon les Écritures. Et pourtant, quand on retourne dans l'Ancien Testament pour vérifier telle ou telle citation qui est faite par les auteurs du Nouveau Testament, quand on examine ce texte dans son contexte historique, il a rarement un lien évident avec son usage dans le Nouveau. En fait, il manque à la très grande majorité des citations qui sont accompagnées par cette formule, hein, ainsi s'accomplit ce qui avait été dit dans les Écritures, il leur manque les trois éléments nécessaires pour constituer une preuve, entre guillemets, apologétique, susceptible de convaincre un juif incrédule. C'est-à-dire, pour qu'un juif croie que Jésus accomplit un texte, une prophétie messianique, il faut que ce texte remplisse trois conditions. Premièrement, il faut que ce soit une prédiction. Il faut que ce soit une prophétie, qu'il annonce un événement futur. Deuxièmement, il faut que ce texte ait pour objet le Messie. Donc ça fait prédiction messianique. Troisième élément, c'est peut-être pas absolument nécessaire, mais ce serait quand même utile, c'est que les Juifs reconnaissent ce texte comme une prophétie messianique. Je sais à quel texte, à quelle prophétie vous pensez, parce que c'est presque la seule qui remplit ces trois conditions, et encore il y a des complications. C'est la naissance de Jésus à Bethléem, hein, qui est annoncée en Michée 5, verset 2. Le roi Davidique doit naître à Bethléem. Bonne chance pour trouver la deuxième. La foi chrétienne, qui est selon les Écritures, exige une lecture de l'Ancien Testament qui ne cadre pas généralement avec son sens historique et littéral. Je vais vous donner un exemple. Okay? On n'a pas le temps de passer à regarder les multiples exemples de cela. Un exemple, comme ça, presque tiré au hasard, c'est quand Jésus, ou Joseph et Marie, pour fuir la colère d'Hérode qui veut tuer le Messie, ils vont se réfugier en Égypte. Vous vous souvenez de cela? Et Matthieu dit, cela s'est passé afin que se réalise ce qui était dit par le prophète, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Donc, on tourne à Osée, au chapitre 11, c'est la citation, on lit, j'ai appelé, quand Israël était jeune, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. D'abord, c'est pas une prophétie. C'est pas l'annonce d'un événement futur. C'est l'évocation d'un événement du passé. C'est l'exode. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout une prophétie. Deuxièmement, il ne parle pas du Messie. Par d'Israël. Et troisièmement, les Juifs n'auraient jamais reconnu dans ce texte une prophétie messianique. Vous voyez? Bon, on peut multiplier les exemples. À CM, on a passé toute une séance. Regardez les textes en Matthieu, vous trouverez la même chose, que ce soit Rachel qui pleure ses enfants, tous les textes. C'est exactement pareil. Le texte de l'Ancien Testament n'est pas une prédiction messianique. Vous voyez, ce serait facile pour les Juifs de réfuter ces citations, soi-disant, qui prouvent que Jésus a accompli les prophéties messianiques. Ah ben, c'est pas une prophétie messianique. Vous autres chrétiens, vous dites n'importe quoi. Vous inventez les prophéties, là, il n'y en a pas. Et c'est ce que Tryphon disait à Justin Martyr. Trois solutions. Première solution, celle de Tryphon. Pour rejeter le Nouveau Testament, faut dire que les chrétiens, ils déforment le sens des Écritures de l'Ancien Testament, et il faut devenir juif. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution. C'est pas dans vos notes, hein. Ça, c'est gratuit. Et cette deuxième solution a commencé à être proposée, disons, deuxième moitié du 19e siècle. Mais elle est devenue très populaire, presque majoritaire, surtout dans les églises évangéliques. C'est l'hypothèse d'un deuxième avènement du Messie. C'est-à-dire, Jésus n'a pas pu accomplir, réaliser littéralement les prophéties d'un règne théocratique, la première fois, quelle que soit la raison, mais il va revenir une deuxième fois, il va établir une théocratie juive, imposer la loi de Moïse aux nations, etc. C'est-à-dire, il va accomplir les attentes qu'avait le peuple juif du temps de Jésus. Il y a deux gros problèmes. Non, d'un point de vue apologétique, théologiquement, exégétiquement, il y a beaucoup plus d'autres de gros problèmes. Mais il y a deux gros problèmes avec cette solution, d'un point de vue apologétique. Premièrement, c'est vraiment, les Juifs peuvent réfuter cette hypothèse très facilement. Et deuxièmement, ça ne répond pas à l'objection des Juifs sur l'usage abusif que les chrétiens font de l'Ancien Testament. On va regarder ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il va dire aux Juifs? Le Juif, qu'est-ce qu'il va dire à cette deuxième solution? Je le sais parce que je l'ai lu de mes propositions. Je sais ce que les Juifs disent. Deuxième avènement. Quel deuxième avènement? Il n'y a pas de deuxième avènement du Messie dans l'Ancien Testament. Ah, c'est encore les chrétiens qui inventent n'importe quoi, qui font dire à l'Ancien Testament ce qu'ils veulent. La deuxième objection, le deuxième problème est beaucoup plus grave. Parce que c'est fondé sur une interprétation littéraliste de certaines prophéties de l'Ancien Testament. Si moi j'arrive, dis bon, ces prophéties sont à comprendre d'une façon figurative. On va me rejeter. Maintenant, il faut une interprétation, il faut une lecture littéraliste. D'accord. Mais dans ce cas, il faut rejeter le Nouveau Testament. Il faut rejeter la lecture que Jésus fait de l'Ancien Testament, que les apôtres font de l'Ancien Testament, et que ceux qui ont écrit les épîtres, et les pères de l'Église aussi. C'est-à-dire, si on rejette une interprétation non littéraliste, pour cela, il faut rejeter la lecture que le Nouveau Testament fait de l'Ancien Testament. Ça, c'est un problème grave pour les chrétiens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a une troisième solution? Oui. C'est accepter le fait que le Nouveau Testament cite ces passages de l'Ancien Testament. Bon, ils connaissent. Hein? Jésus connaissait le sens historique, le sens littéral de ces textes. Mais il y discerne autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de caché. On appelle ça, ou moi j'appelle ça, une lecture typologique. Cette solution pose une question très importante. Comment est-ce possible qu'un texte ayant clairement un sens particulier, à son époque, soit arraché de son contexte et appliqué à une situation fondamentalement différente? C'est possible grâce à ce que les pères de l'Église appelaient analogie. Bon, analogie pour les pères de l'Église, ça voulait dire pouvait prendre beaucoup de formes. Donc, ce que les pères de l'Église appelaient analogie est ce que moi j'appelle, moi et d'autres, typologie. Moi, j'utilise pas le mot allégorie. Plus. Parce que dans notre langage, allégorie, c'est une forme littéraire très bien définie. Alors que chez les pères de l'Église, ça pouvait couvrir les types, les préfigurations et d'autres. Donc, j'utilise le mot typologie. La lecture typologique est celle de Jésus. Pourquoi est-ce que les pères de l'Église lisaient l'Ancien Testament comme ça? Ben, ils ont eu ça, les apôtres. Pourquoi est-ce que les apôtres lisent ça? Ben, ils ont eu ça de Jésus. Quand Jésus est venu dans le monde, non seulement il a apporté une nouvelle vision du dessein de Dieu pour Israël, il a apporté une nouvelle façon de lire les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait le dessein de Dieu. Il est le seul. Il est le seul. Abraham ne connaissait pas le dessein de Dieu. Moïse ne connaissait pas. David ne connaissait pas. Ésaïe ne connaissait pas. Jean-Baptiste ne connaissait pas. Jésus est le seul qui connaît les intentions de Dieu à l'égard de la race humaine. C'est pas dans l'Ancien Testament. Si, il est là, mais caché. Ça veut dire quoi, caché? Ça veut dire qu'on ne le voit pas, n'est-ce pas? C'est caché. Alors, il faudrait quelque chose. Je sais pas. Des lunettes, une loupe, une clé, pour nous permettre de discerner et de dégager ce qui est caché. Cette clé, c'est Jésus. C'est sa vie, sa naissance, son ministère, ses miracles, ses gestes, sa mort, sa résurrection, son ascension. L'apôtre Paul va dire ceci au sujet des Juifs de son temps. C'est en 2 Corinthiens. Mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la synagogue, ce même voile demeure. Il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît. C'est-à-dire, sans le Christ, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le dessein de Dieu dans l'Ancien Testament sans le Christ? Parce qu'il est caché. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ce programme clairement défini que le Messie peut crocher comme ça. Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur, leur intelligence. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Le Christ dévoile ce qui a été caché. Le Nouveau Testament insiste beaucoup là-dessus. Et moi, je suis en train d'inventer cela. Regardons. Caché, ça veut dire c'est un secret. Un secret, par définition, ne se sait pas. Hein? Sinon, ce n'est pas un secret. Lisons ces textes. Hein? Il y en a beaucoup. Mais comme je dis, c'est une révolution copernicienne. Il faut insister un peu dessus. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. C'est Matthieu 13. Il ne leur disait rien sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, j'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Le dessein de Dieu a été caché, pas révélé dans l'Ancien Testament, mais caché. Romains 16, verset 27, à celui qui a le pouvoir de vous affermir, selon l'évangile que j'annonce en prêchant Jésus-Christ, selon la révélation d'un mystère gardé dans le silence durant les temps éternels, mais maintenant manifesté et porté à la connaissance, maintenant depuis quand? Depuis Jésus. Depuis sa mort, résurrection, ascension. Manifesté et porté à la connaissance de tous les peuples païens par des écrits prophétiques selon l'ordre de Dieu éternel. Nous enseignons la sagesse de Dieu mystérieuse, ça veut dire secrète, et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destiné à notre gloire. On continue. Ce mystère, ce secret, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées. Lisons aux Juifs de l'Ancien Testament. Comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Éphésiens 3, j'ai reçu cette grâce d'annoncer aux païens l'impénétrable richesse du Christ, et de mettre en lumière comment Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui, le Créateur de l'univers. J'en suis devenu le ministre en vertu de la charge que Dieu m'a confiée à votre égard, achever l'annonce de la parole de Dieu, le mystère tenu caché tout au long des âges que Dieu a manifesté maintenant à ses saints. Bon, le mot mystère, ça ne veut pas dire que le dessein de Dieu, c'est difficile à comprendre, mystérieux. Non, ça veut dire secret. Mysterion en grec, ça veut dire c'est un secret que Dieu a délibérément caché dans l'Ancien Testament. En fait, la révélation de Jésus est la lumière. Et comparé à Jésus, l'Ancien Testament, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Alors, comment le dessein de Dieu a-t-il été caché? Généralement, le vrai projet de Dieu pour les hommes a été caché en dessous de la vie et des institutions de l'Ancien Testament, d'Israël. Les Juifs du temps de Jésus avaient certaines attentes concernant le Messie. Des attentes qu'on ne peut pas dissocier de l'histoire et des institutions d'Israël. Ils attendaient un roi nationaliste qui allait non seulement assurer l'indépendance d'Israël, mais le Messie devait fonder un empire théocratique qui imposerait la religion juive aux païens. Et tout cela fondé sur la loi de Moïse. Les Juifs n'attendaient pas un Messie caché. Ils n'attendaient pas un Messie crucifié. Ils n'attendaient pas un Messie internationaliste. Ils attendaient un Messie théocratique. Ils n'attendaient pas un Messie qui allait revenir à la vie et monter au ciel et régner sur l'univers à la droite de Dieu. Ils attendaient un Messie qui allait régner sur le monde à partir de Jérusalem. Même les apôtres de Jésus ont partagé ces attentes nationalistes jusqu'au bout. Vous savez, quand ils s'en vont, ils abandonnent Jésus dans le jardin. Vous connaissez cette histoire? On dit, ah oui, ils avaient peur. Pardon? Ils avaient peur? Pierre tire son épée, il allait, les onze allaient se mesurer à toute cette foule de soldats venus arrêter Jésus. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Pierre a dit, je suis prêt à mourir pour toi. Ils ne mentaient pas. Ils ne quittent pas Jésus parce qu'ils ont peur. Ils quittent Jésus parce qu'ils ont perdu leur foi en lui comme le Messie. Ils attendent qu'au dernier moment, Jésus allait faire un miracle ou quelque chose. Et il allait devenir le roi nationaliste dans lequel Ils espèrent. Ils voient Jésus se laisser arrêter par les Romains. Ah, dommage. Notre candidat, c'est pas celui que nous pensions. Ils sont prêts à mourir pour le vrai Messie, mais pas pour un faux Messie. Donc, ils n'ont pas la foi pleinement en Jésus. Il faut attendre la résurrection. Quand Jésus leur donne les enseignements concernant le dessein de Dieu, annoncé d'une manière voilée dans l'Ancien Testament. Voilà comment les choses se sont passées. En dessous de la lettre de l'Ancien Testament, sous la surface de sa poésie, sous la surface de ses proverbes, de ses récits historiques, de ses oracles prophétiques, l'Église des premiers temps a discerné le Christ lui-même, a discerné le dessein de Dieu. Nous appelons ça l'Évangile. Alors, ce témoignage prophétique de l'Ancien Testament est caractérisé par deux choses. Deux choses. Premièrement, son caractère rétrospectif. Rétrospectif. C'est pas que, oh, voici les prophéties qu'on connaît très bien. Non, on savait même pas que c'était des prophéties messianiques. Jusqu'à ce que Jésus les réalise. Et jusqu'à ce qu'ils disent aux apôtres, ça parle du Messie, là. Bien sûr, pas littéralement. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire ça? Parce qu'il connaît, lui, le dessein de Dieu, et il est le seul. Le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. C'est Jésus qui reçoit l'Esprit, le seul, en plénitude. Les prophètes avaient des bouts de vérité sur le dessein de Dieu. Seul Jésus connaît le dessein de Dieu. Donc, il faut interpréter l'Ancien Testament en fonction de Jésus, non pas le contraire. Ça, c'est la révolution copernicienne. C'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. C'est pas Jésus qui tourne autour de l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui tourne autour de Jésus. Bon, son caractère rétrospectif. Deuxièmement, son caractère caché. Caché. Alors, les Juifs, on est dans un cours d'apologétique. On finit la théologie. Qu'est-ce qu'ils font? Ces textes que les chrétiens appliquent à Jésus, les Juifs disent, ben, ça ne parle pas de Jésus, là, ça ne parle pas du Messie, ça parle d'Israël. Hein? Le prophète, il parle du reste fidèle. Hein? Le serviteur souffrant dans les poèmes d'Ésaïe. C'est pour ça qu'ils disent, les chrétiens lisent mal l'Ancien Testament. Ils déforment l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'ils rejettent, ça c'est la justification pour rejeter Jésus. Mais ça exige de notre part quoi? Il faut apprendre à lire l'Ancien Testament d'une autre façon. Celle de Jésus. Je ne veux pas dire, suggérer qu'il y a un problème avec la façon dont le Nouveau Testament lit l'Ancien. Non. La lecture typologique est un fondement de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est la méthode de Jésus. Lui qui connaît le dessein de Dieu. Nous lisons l'Ancien Testament chrétiennement. Ça veut dire, ça remonte au Christ. Les apôtres ont appris de Jésus. Les pères de l'Église ont appris cette méthode des apôtres. Et à notre époque, nous avons plus ou moins abandonné cette méthode. Donc, il y a une conséquence, il y a quelque chose qui découle de cette lecture typologique. Il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau une certaine continuité, mais il y a surtout une rupture. Nous sous-estimons la rupture. La réalité a remplacé l'ombre. La lumière a remplacé les ténèbres. La révélation a remplacé le secret. L'obsolète, le vieux, a remplacé le nouveau. Lisez l'Épître aux Hébreux. Lisez l'Épître aux Galates. Lisez le Nouveau Testament. Ça, c'est la vision que vous verrez.